Chut, on écoute la télé avec L'Angélis, votre maître artisan glacier régional, élu saveur de l'année 2018. Vos points de vente en Gironde sur l'angélis.com.
Chut, on écoute la télé avec DSM Fabricant, votre spécialiste du revêtement sol et mur sans raccord sur diffusionsolmur.fr. C'est l'heure de Chut, on écoute la télé. Votre talk show radio sur Radio Dune, la radio du bassin d'Arcachon avec Alain Jeanne.
Bonjour à tous, comme chaque lundi à 16h, ravi de vous retrouver pour votre émission Chut, on écoute la télé sur Radio Dune.
Chut, on écoute la télé, le talk show radio.
Alors au sommaire de cette nouvelle édition de Chut, on écoute la télé, dans un instant nous allons recevoir le chanteur Benabar qui viendra nous parler de ses projets, un an jour pour jour, après la sortie de son album Le Début de la Suite, et bien il sera avec nous pour évoquer cette année 2019 qui l'attend. Et en fin d'émission, une dernière partie consacrée au téléfilm événement de France 3, Les Mystères du Bois Galant, avec l'équipe du téléfilm qui sera avec nous, Sandy Lewis Godefroy, David Van Severen et également Sarah Mortensen seront nos invités exceptionnels. Et puis entre les deux, nous allons reparler des Ombres Rouges, la fiction événement de C8, le dénouement c'est pour demain, Antoine Duléry sera notre invité pour en parler avec nous. Et puis nous aurons le plaisir également de recevoir l'orgue Guibert et Patrick Puydeba, ils incarnent depuis plus de 25 ans Nicolas et Bénédicte dans la saga d'Hélène et les garçons. Ils viennent de fêter le 500e épisode des Mystères de l'amour. Alors comment se sentent-ils après tout ce succès et ces 20 saisons sur TMC? On en parlera évidemment avec eux tout à l'heure. Et puis enfin, on parlera également du téléfilm Une vie après, ça sera diffusé vendredi sur Arte. C'est Laurent Bateau qui viendra nous en parler dans Chute. On écoute la télé, mais on va faire tout de suite un petit détour avant d'accueillir Benabar avec les audiences de la semaine dernière.
Les tops et flops d'audience.
Allez, un rapide coup d'œil sur les audiences juste avant d'accueillir Benabar de la semaine dernière. On démarre avec TF1, les bracelets rouges lundi dernier légèrement en baisse avec 4 759 000 téléspectateurs et 21,8% de part de marché. Kepler sur France 2 s'en sort bien avec 3 158 000 téléspectateurs et 13,8% de part de marché. Mario Premier Regard sur M6 dans sa moyenne avec 2 389. Mardi, il y avait rendez-vous en terre inconnue consacré à Franck Gastambide sur France 2, c'est en tête. Avec 4 640 000 téléspectateurs, 23,4% de part de marché, L'Arme fatale sur TF1 arrive en deuxième position avec 3 861 000. Petite déception cependant pour le téléfilm Une mère sous influence sur France 3 avec seulement 2 316 000. Et puis mercredi, il y avait Un homme parfait sur France 2. Ce téléfilm événement avec Odile Huillemin a rassemblé 3 890 000 téléspectateurs pour 17% de part de marché. Grey's Anatomy arrive derrière avec 3 280 86 000 et Top Chef dans sa moyenne également à 2 384 000 téléspectateurs pour 12,3% de part de marché. Koh-Lanta arrive en tête jeudi, jour exceptionnel de diffusion, c'est un beau score également. Et puis bien sûr le foot vendredi écrase tout sur son passage. Le match France-Moldavie réussit à cartonner sur TF1 comme d'habitude, mais sans s'y attendre.
L'invité d'honneur de la semaine.
Allez, notre invité d'honneur aujourd'hui dans Chute, on écoute la télé, je suis pas peu fier de l'accueillir, c'est Monsieur Benabar qui est avec nous, bonjour.
Bonjour.
Merci d'être là, je suis très heureux de t'avoir parce que, à double titre, j'aime beaucoup ta musique, en tant qu'acteur, t'es un artiste complet aujourd'hui, et il est vrai que cet album qui est sorti maintenant il y a presque un an, ça a été un très très bel album qui a très bien marché.
Merci beaucoup pour tous ces compliments. Oui, l'album c'est bien passé, puis on a pas fini parce que là on repart pour les festivals d'été là à partir du mois de mai-juin, là, je sais pas encore. Donc on est encore à fond sur dans l'aventure comme on dit de cet album, c'est ce qui nous plaît bien d'ailleurs parce que moi il reste encore très très présent cet album.
C'était le début de la suite.
Ouais, c'est le début de la suite j'espère qu'on pourra dire rétroactivement que c'était bien nommé, l'avenir nous le dira. Mais en tout cas, j'étais content de pouvoir l'appeler comme ça, c'est-à-dire d'avoir quelque chose d'assez enthousiaste et d'assez optimiste.
C'est un album très enlevé, très festif, Feu de joie, par exemple, des morceaux comme Feu de joie.
Oui, on a essayé avec Marc Domaille, le réalisateur, qui a réalisé l'album de Cocoon. On avait ça en tête de faire quelque chose de joyeux, d'entraînant, ce qui n'empêche pas, j'espère, de raconter des choses aussi. Mais en tout cas, vouloir faire du divertissement aussi, idéalement un peu intelligent. Et ça, c'est au public de trancher, mais en tout cas, nous, c'était un peu notre objectif.
Alors, tu es l'exemple même de l'artiste qui n'est pas enfermé, justement, dans quelque chose et qui est la preuve vivante qu'en France, on peut faire plein de choses différentes. On peut faire du cinéma, comme tu as été dans Incognito, tu peux faire de la télévision comme Le Secret d'Élise, et tu peux faire de très beaux albums.
Bah, merci encore une fois. Et puis oui, moi je crois que bah on est nombreux à vouloir faire ça et à pouvoir faire ça. Après, c'est vrai que le système le permet pas forcément. Il y a des blocages, ce qui est à mon avis une erreur, parce que je pense que un acteur peut très bien chanter. Enfin voilà, tout le monde peut un peu. Toi, si tu peux jouer, faire du théâtre, il y a pas de raison, quoi. C'est-à-dire que après, il faut aussi s'en donner les moyens. C'est le seul truc. C'est-à-dire que il faut aller au bout de ce qu'on fait, pas faire n'importe quoi uniquement pour le faire ou parce que pour capitaliser sur une célébrité, quoi, faire vraiment pour servir un projet. Donc c'est plus ça la difficulté, c'est d'essayer d'être d'une part crédible mais surtout sincère dans ce qu'on fait.
À quel moment tu as su que tu voulais faire de la chanson ton métier? Quel a été l'élément déclencheur?
Bah en fait je l'ai jamais pensé comme ça. Je me suis dit un jour ah merde, c'est mon métier. Mais je m'en étais pas vraiment rendu compte, c'était quelque chose que je faisais vraiment au jour le jour. Je jouais dans les bistrots, puis j'avais de plus en plus de concerts, donc je jouais de plus en plus, j'ai commencé à faire un album, un deuxième, mais toujours en me disant bah, j'y vais à fond évidemment, ça j'ai jamais transigé là-dessus, mais sans me projeter jamais. Puis un jour je me suis dit ah bah oui, mais ça fait quand même quelques années que je fais ça et que je gagne ma vie avec ça, donc par définition c'est devenu mon métier.
La scène aussi, c'est quelque chose, je sais, qui est très important pour toi, de défendre tes albums sur scène.
Oui, la scène, c'est vraiment, c'est central, hein, c'est la cause et la conséquence des morceaux, quoi. C'est moi, encore une fois, je viens de là, donc moi, ça a toujours été essentiel. J'ai commencé à faire de la scène bien avant faire un disque ou de rencontrer un journaliste ou de faire une télé, quoi. Donc, et puis c'est le moment quand même. C'est un peu un cliché, mais c'est la réalité où on est dans la réalité de la chose, quoi. C'est-à-dire qu'on vient vraiment chanter nos morceaux à des gens, quoi, qui peuvent applaudir ou siffler. Ou quand on dit qu'on peut pas tricher sur scène, c'est pas tout à fait vrai, parce qu'on a quand même des micros, on a répété, etc. Donc il y a un peu de la triche, mais il y a quand même une réalité sur scène. Le reste c'est un peu abstrait. Une interview c'est toujours un peu abstrait. Un album ça peut l'être aussi, alors que la scène c'est très terre à terre, très concret, quoi.
Quelles ont été tes scènes qui t'ont le plus marqué aujourd'hui? Les artistes disent souvent, par exemple, c'est l'Olympia, voir son nom pour la première fois en lettres rouges à l'Olympia. C'est quelque chose qui marque dans la carrière d'un chanteur.
Franchement, il n'y a pas eu vraiment de scène. À chaque fois, évidemment, oui, en effet, le premier Olympia, mais comme le premier Zénith ou le premier Bercy, ou de faire des festivals énormes devant plein de gens. Ça, ce sont des trucs qui marquent, mais plus par la taille ou par le prestige, entre guillemets, du truc. Après, c'est plutôt de... Les tournées, moi, c'est ça qui vraiment m'enchante, c'est de se déplacer, de s'endormir dans une ville, de se réveiller dans une autre. C'est ce truc-là. C'est plus les 50 dates, 60 dates qu'on fait en tournée qui me marquent vraiment ce côté un peu vertigineux où on commence à mélanger les villes, où on sait plus trop
dans quel on est.
Hier, où on est. Ça, c'est vraiment un moment où d'un moment on est complètement hors sol et la seule chose qui est réelle, c'est le contact avec le public. Donc ça, c'est un moment très, très poétique, très touchant.
De toute façon, si tu te trompes de ville, tu le sais tout de suite, généralement. T'as le public qui crie « Où ?» et là, général, vous dites « Bah ici, chez vous !»
Oui, c'est ça, exactement.
Bon, on s'écoute un premier extrait. Moi, c'est mon préféré, « Feu de joie ». Celui-là me transporte et j'ai envie de faire transporter un peu nos auditeurs aussi. « Feu de joie », c'est Benabar qui est dans « Chut, on écoute la télé ». C'est maintenant, on l'écoute.
Allumons à feu avec ce qui ne va pas, ce qui rend malheureux. Brûlons tout ça, réduisons en cendres les blessures, réduisons ensemble nos fractures. Et ce sera, tu verras, un feu de joie. Et ce sera, tu verras, un feu de joie. Pour remplacer les bûches, les reproches crétins, leurs minables embûches crameront bien. Feu d'artifice, si l'on jette dedans amitié factice, amour décevant. Et ce sera, tu verras, un feu de joie. Et ce sera, tu verras, un feu de joie. Un feu de joie.
âmes, ce qui nous consommait. Soyons pyromanes des entraves qu'on avait. Nos regrets, des étincelles, chagrin follet, crépite au ciel, remords stériles, enfumés, l'inutile dans le brasier. Et ce sera, tu verras, un feu de joie. Et ce sera, tu verras, un feu de joie.
C'est Benabar qui est notre invité d'honneur aujourd'hui dans Chute en écoute la télé. Comme je l'ai dit, je suis très fier de t'avoir avec nous.
Moi, je suis fan.
Allez, on va
de
se retrouver dans un tout petit instant avec Benabar qui est notre invité. Tu restes avec moi. Ouais. Est-ce qu'il y a un titre qui a été l'élément des 3 minutes avec Benabar dans Chute en écoute la télé?
Une impulsion différente sur un titre.
Bouge pas, bouge pas. Chute en écoute la télé revient dans un instant.
À tout de suite. Je suis fan. Je sais pas si c'est adapté. C'est plutôt des gens qui m'apprécient, même peut-être momentanément d'ailleurs, qui aiment me voir. Mais moi, d'une part, je cultive pas ce rapport-là. Et puis, j'ai pas le sentiment que ce soit le cas de l'autre côté. Mais pour revenir sur les titres, il y a sur chaque album des morceaux qui échappent un petit peu, quand on les joue sur scène, on s'aperçoit que tel morceau, par exemple, c'est tel morceau, les gens l'aiment pas tellement. Alors que celui-là, ça marche mieux. Enfin, c'est très curieux. C'est vraiment sur scène que les morceaux vivent, en fait. Où on s'aperçoit qu'ils ont touché plus ou moins le public. Puis après il y a sur la longueur, après il y a des morceaux un peu plus cachés dans un album, c'est le numéro 6, le numéro 8, mais qui ressurgissent après parce qu'avec le temps les gens les ont réécoutés, etc. Donc c'est très curieux la hiérarchie des morceaux, quoi.
On te retrouvera en festival cet été du côté de Saint-Dizier par exemple, ou encore en Suisse, mais est-ce que tu aimes revisiter par moments d'anciens titres pour surprendre aussi tes spectateurs?
Ah oui, ça on fait beaucoup sur scène, oui, de reprendre les anciens morceaux comme on les joue, et puis avec plaisir d'ailleurs. Et nous, c'est un peu un best-of la scène, c'est pas le dernier album uniquement, tu vois, c'est au contraire d'essayer de jouer de tout, quoi. Et on à chaque fois on les retravaille pour avoir une, et déjà nous, pour pas s'endormir, pour pas aller, enfin tu vois, pour pas rentrer dans la routine, quoi. Et donc ça, c'est un exercice assez, ça demande beaucoup de boulot parce que ça fait un paquet de fois qu'on les rejoue, mais c'est assez excitant à faire, ouais.
Alors il y a un festival très connu, hein, chez nous en Nouvelle-Aquitaine, c'est évidemment les Francofolies. Je suppose que tu as une histoire avec les Franco.
Ouais, j'ai une histoire depuis longtemps, parce que moi j'ai commencé au Franco, je jouais dans le festival Off. Je faisais un bistrot là-bas il y a donc 20 ans maintenant, même un peu plus, je pense, ça devait être 97, 98.
C'est un véritable tremplin, mine de rien, les Franco, aujourd'hui.
Oui, ça l'a été. Puis après, moi, j'ai écumé toutes les salles. J'ai fait les petites salles, la Coursive, le Saint-Jean d'Acre. Et là, cette année, je vais y retourner.
Ah, c'est d'un scoop parce que tu n'as pas été encore annoncé au Franco. Donc, on va t'y revoir, peut-être la Coursive ou la Grande Seine?
Bah écoute, je sais pas encore, parce que justement on est en train de voir, est-ce qu'on fait un truc plus carte blanche à la Coursive, qui m'irait bien, moi, parce que j'aimerais bien faire ça cette année.
C'est pas mal. Ça serait chouette, on sera là, on sera avec toi, hein. On ne ratera pas évidemment le rendez-vous Benabar de retour au Franco cet été. Quel a été le message de personnes qui sont venues te voir en concert ou qui t'ont vu à la sortie d'une avant-première par exemple, qui t'a peut-être le plus surpris ou touché?
C'est toujours très bienveillant, puis très simple. Il y a quelque chose de très direct que moi, puis l'équipe qui m'entoure, les musiciens, on a toujours cultivé avec le public un truc de entre guillemets de partage, même si j'aime pas ces grands mots un peu passe-partout. Mais et donc le retour est pareil, c'est quelque chose de très direct, de très sincère et de simple dans le bon sens du terme, quoi. C'est-à-dire juste des personnes qui se rencontrent et qui échangent trois mots bienveillants, quoi.
Le cinéma, la télé. Je sais que ça, c'est des domaines que tu aimes beaucoup aussi.
Oui, j'ai fait deux films l'année dernière là, qui vont sortir cette année. Ouais.
Bien. Alors, dis-nous un petit peu, t'as déjà les titres, le rôle?
Oui, il y a un film qui s'appelle Belle Famille, si ça change pas. C'est une comédie d'Hector Cabello-Reyes que j'ai coécrite et dans laquelle je joue avec Josiane Balasco, Didier Bourdon, Charlie Bruno, Bruno Salomon, Fred Bourali de Scène de Ménage, et qu'on a tourné là, c'est l'été dernier. Et puis un autre film de Pierre Jolivet qui s'appelle Victor et Célia.
Ça sortira quand? A priori, Belle Famille?
Je sais pas.
Pas de date pour l'instant de sortie.
Non, et puis c'est très, très ésotérique le cinéma. Ça. Bon,
on se tient au courant puisque cet été tu viens à La Rochelle. Alors ça sera l'occasion eh bien, de se retrouver là-bas et évidemment d'en parler. Même pourquoi pas t'organiser une avant-première chez nous. Ça serait avec plaisir qu'on t'accueillerait.
Eh ben, merci beaucoup, c'est gentil.
Bon, dis-moi, deuxième extrait de cet album, le début de la suite. Et juste avant de nous dire le titre que tu veux, le début de la suite, ça veut dire que la suite va pas tarder.
Mais oui, j'y travaille. C'est vrai que moi j'ai envie. Alors je sais pas encore parce qu'il faut que quand même que ce soit convaincant artistiquement. Mais j'ai envie d'enchaîner vite. Ouais, c'est justement en ce moment je suis à fond là-dedans.
2020, prochain album?
Bah je sais pas du tout, mais vrai parce qu'il faut vraiment que je sois content et que les morceaux soient aboutis parce qu'il faut pas sortir un truc pour sortir un truc. Mais en tout cas là, je bosse activement dessus avec beaucoup d'enthousiasme. Ouais.
On suit ça et on s'en reparle cet été. Allez, quel morceau maintenant tu veux?
Oh, je dirais la petite vendeuse.
La petite vendeuse? Eh bien allez, c'est le deuxième extrait de l'album Le Début de la Suite que vous pouvez trouver encore hein, dans les bacs. C'est l'album de Benabar qui était avec nous aujourd'hui dans Chut, on écoute la télé. Et je te souhaite en tout cas tout le meilleur pour la suite et on se donne rendez-vous cet été au Franco.
Merci beaucoup, à cet été alors.
Vendeuse en pause, allume morose sa deuxième cigarette. Sur le trottoir arrière de la rue derrière, les galeries Lafayette. Elle est pas malheureuse, la petite vendeuse, et de loin on dirait presque du bonheur quand l'antidépresseur fait enfin de l'effet. Une vendeuse en pause, vêtue comme impose le grand magasin. Du côté livraison, réservé camion qui décharge au matin. Elle est pas malheureuse, la petite vendeuse, et de loin on dirait presque du bonheur quand l'antidépresseur fait enfin de l'effet. Rayon maroquinerie, elle attise l'envie de clients aisés. Vend des jolis sacs à la mode et de marque qu'elle ne peut pas acheter. Elle est pas malheureuse, la petite vendeuse, et de loin on dirait presque du bonheur quand l'antidépresseur fait enfin de l'effet. Elle joue son rôle et bien, je la regarde de loin, un peu dissimulé. Comme j'ai l'air d'un pervers, le vigile me repère, je préfère m'en aller. Elle est pas malheureuse, la petite vendeuse, et de loin on dirait presque du bonheur quand l'antidépresseur fait enfin de l'effet. Ma vendeuse à ses babioles coûteuses, à mes souvenirs. Je l'espère heureuse, rien ne s'y oppose, ça s'appelle l'avenir. Adieu ma vendeuse, ne sois pas malheureuse, je te l'interdis. Je voudrais te le dire, mais je dois m'enfuir, le vigile me poursuit. Revenu en cachette, bonnet et lunettes, mais tu n'étais plus là. Côté livraison, côté rayon, pas de trace de toi. Maintenant où es-tu? Je ne le serai plus, salaud de Cupidon. Pour te garder près de moi, je t'ai mise, m'en veux pas, dans cette chanson. Pour te garder près de moi, je t'ai mise, m'en veux pas, dans cette chanson.
Nos coups de cœur télé cette semaine.
Allez, cette semaine, on va reparler des Ombres Rouges. Vous savez, c'est le grand final hein, sur C8 de cette première fiction, grande fiction de prime time, cette saga événement sur C8 avec Antoine Duléry qui nous a rejoint. Bonjour Antoine.
Bonjour, comment allez-vous, cher ami?
Ça va très très bien. Je suis très heureux de te revoir avec nous, Antoine, puisque en plus, tu es le patriarche.
Je suis le patriarche, parce qu'est-ce que tu veux? Voilà, je commence à être un acteur âgé, puisque je viens de fêter mes 76 ans. Et donc, non, mais c'est vrai que c'est la première fois que je commence à... Enfin, ça m'amuse, parce que c'est vraiment un vrai rôle de composition, puisque Nadia a quand même 9 ans de moins que moi, et que je suis censé être son père. Mais ça m'amuse beaucoup, parce que d'abord, c'est un rôle donc de composition, et de jouer le patriarche, c'est très sympa. Mais c'est ça qui est agréable quand tu es un acteur, c'est que... je sais que c'est souvent plus difficile pour les femmes, c'est elles qui le disent, pour les actrices femmes, mais nous, on peut se balader un peu comme ça, plus facilement dans tous les âges, et moi... plus tard, hein, je suis encore un peu jeune, mais plus tard, ben, comme mon copain François Berléand, on fera, et c'est génial de pouvoir faire des personnages plus âgés, de faire les grands-pères, de faire les, tu vois. Donc peut-être qu'un jour je ferai les vrais grands-pères. Là, c'était un rôle de composition. On m'a mis une fausse barbe.
Ils ont bien vieilli quand même, oui.
Ils m'ont pas mal vieilli. Et c'est vrai que c'était très amusant à jouer, parce que moi, comme tu le sais, j'adore les rôles de composition. Donc ça m'a permis de répéter pour les prochaines années à venir.
Alors ce patriarche, évidemment, hein, il y a des secrets en cascade, hein, qui tombent, hein, dans ces ombres rouges, avec évidemment. Alors si vous n'avez pas suivi les 4 premiers épisodes, hein, l'histoire de base, c'est Nadia qui est capitaine de police, officier de police, et qui sa sœur a disparu 25 ans plus tôt, et donc elle la retrouve, cette sœur, grâce à une filature, grâce à une course poursuite. Et là, évidemment, les secrets tombent les uns après les autres dans cette famille, des fois au secret inavouable. Hein.
Tout à fait. Plein de secrets inavouables, mais justement, comme ils sont inavouables, on va pas les dire. Ce qui est vachement bien, c'est que c'est une saga familiale et en même temps, c'est un thriller. Mais je trouve que c'est assez rare de voir ce qu'on trouve dans les grands films américains, comme dans les... même Le Parrain, si on veut ça. J'aime bien qu'il y ait aussi une intrigue policière, mais au sein vraiment de cette famille. C'est ça qui m'a beaucoup plu, puisque j'ai moi-même mon père, qui est magnifiquement interprété par André Oumansky. Je fais le père, donc, de Nadia et d'autres, de ma fille que je retrouve, et puis je suis entouré de jeunes formidables comme Lannick Gautry, Raphaël Langlais. Donc je trouve que le côté familial comme ça, on voit ça assez rarement, je trouve, on l'a vu, mais plutôt dans le registre de la comédie. Et là, je trouve que c'était très touchant. Il y a vrai, puis mon personnage est un personnage très sensible, très pudique, et j'ai beaucoup de scènes d'ailleurs avec Nadia comme ça, où on se dit des choses mais au compte-gouttes, et ça m'a beaucoup plu, ce personnage qui est un petit peu en retrait, qu'on voit plus sur la femme, qui est d'ailleurs un petit peu en retrait au début, mais ça m'a pas du tout dérangé, parce que justement je trouve qu'il a un œil extérieur très important et qu'il est à la bonne distance de ces choses-là, parce qu'il a acquis un certain âge, qu'il y a des secrets qu'il ne veut pas révéler, peut-être qu'il ne veut pas voir. Et ce personnage, justement, un peu de sage, m'a beaucoup plu, parce que je l'avais jamais interprété. Voilà, tout simplement. Et puis c'est vrai que quand je fais le père de Nadia, ça fait toujours rigoler, mais faut pas oublier que quand Marc Villalonga faisait la mère de Guy Bedos, elle avait 3 ans de plus que lui. Et pourtant, ça marche très bien dans les films de Yves Robert.
Comme quoi, tu vois. Dis-moi, une fiction, c'est 8 grandes fictions de prime time. On sait que ça a été tourné, on en discutait avec les producteurs et réalisateurs justement. C'est de trouver des économies à tous les étages, de tourner plus vite, de trouver des solutions pour gagner évidemment de l'argent, parce qu'on n'a pas la même économie. Est-ce que toi tu l'as ressenti? Est-ce que tu as ressenti tout ça au niveau du comédien que tu es? Parce que nous, à l'image, on n'a pas vu cette différence.
Écoute, non, parce qu'effectivement, c'est très compliqué de faire des séries. Donc c'est vrai qu'il faut que ça aille vite. Mais maintenant, tu sais, je veux dire, tout va tellement vite, tout est plus compliqué au niveau des financements. Mais tu sais, ça va aussi vite au cinéma. Avant, on disait que c'est la télé allait très vite et le cinéma en prenait plus son temps. Moi, je vois pas tellement de différence. Tout, maintenant, doit aller assez vite. Mais par contre, ce qu'il faut, c'est faire les choses dans l'efficacité, mais surtout garder la qualité. Donc, si tu veux, quand j'ai fait Les Ombres Rouges, moi, j'ai pas senti ça, parce que Duchon est un formidable réalisateur avec qui j'avais déjà tourné et qui sait piloter vraiment des grandes séries. Il faut évidemment des très grands réalisateurs qui soient vraiment des types de marathon pour faire ce genre de série.
Quel a été pour toi ton plus beau souvenir de tournage ?
Non, tous les jours, j'ai pas été. Tu vois bien que je suis pas tout le temps là, donc à chaque fois que je revenais, c'était un vrai plaisir de retrouver cette équipe. Vraiment, j'aime beaucoup Christophe. J'ai beaucoup d'amitié pour Christophe Duchamp, beaucoup, beaucoup, beaucoup. Quelqu'un que j'aime vraiment humainement très fort, et donc c'était un vrai plaisir de le retrouver, parce qu'il sait diriger les acteurs avec une parfaite harmonie. Moi, j'aime l'harmonie. Tu sais, j'aime quand ça se passe bien. J'aime pas les gens hystériques, tout ça. Oh là là, ça me fait chier. La vie est trop courte. Donc moi je suis très heureux, je suis très copain avec Nadia aussi, tu sais Nadia, on se connaît en dehors de la vie, j'allais dire, c'est drôle ce que je veux dire, en dehors de la fiction, puisque on avait un grand ami en commun qui était Johnny Hallyday, puisqu'elle vit à Los Angeles, comme tu le sais, et j'ai tourné dans le film de Lelouch avec elle, Johnny, Dujardin, tout ça, on s'était retrouvé à Beaune, donc on s'aime beaucoup avec Nadia. Donc il y a presque quelque chose de familial là-dedans, tu vois. Donc c'était, non, vraiment, j'ai que des souvenirs. On était à Cassis, tu vois, des souvenirs de... Il faisait beau, tu vois, le soir, tu vas dîner dans un port alors que tu viens de tourner. C'est magnifique, tu allies vraiment le... Pas le loisir, mais tu allies les bons moments de la vie à du travail, donc c'est génial. Quand tu tournes dans une région aussi belle que là où on était, c'est que du tournage magnifique. Il faisait très chaud. Alors, par contre, j'en ai chié les mauvais souvenirs, c'était la barbe, quoi, parce que... Tu vois, 8, 10, 12 heures avec la barbe, avec la chaleur qu'il faisait, ça me grattait pas trop, mais c'était lourd à porter le soir. Putain, qu'est-ce que j'étais content de l'enlever.
Bon, tes projets pour 2019, cinéma, là, théâtre?
Alors théâtre, mon one-man show que je continue à faire dans toute la France, qui cartonne toujours autant. Je le joue depuis 6 à 7 ans. Le bazar de la charité, que je suis en train de tourner une grosse série pour TF1 qui se passe en 1897. Mon dernier La Rosière qui va revenir avec Samuel Labarthe. Et ce sera un adieu à la série. Et après, je fais Deux Crimes Parfaits à nouveau, comme j'avais fait avec Christophe Duchamp. Mais bon, là, je crois que ce sera un autre réalisateur.
Il sera tourné en Charente-Maritime, si je ne m'abuse.
Ouais, peut-être bien. Ou alors en Bretagne, je sais pas. Tu penses que c'est en Charente, toi? T'as eu des échos? Alors peut-être en Charente-Maritime, Deux Crimes Parfaits. Et après, j'ai un très beau projet qui est de réaliser mon premier long-métrage que j'écris avec Guillaume Laurent, qui est un grand scénariste, qui est notamment le scénariste de tous les films de Jean-Pierre Jeunet. Voilà.
Eh bien, on sera à tes côtés pour ce long métrage. Merci à toi, Antoine, et à très vite.
Merci à toi et merci à vous.
Et on va se quitter avec la bande-annonce. Merci à toi.
C'est toi qui protèges Baptiste dans cette affaire, comme sans doute dans beaucoup d'autres. La seule chose qui me manque, c'est pourquoi et comment il te tient. Mais je vais trouver. Chérie, il faut vraiment qu'on se dépêche là, parce que tu vas être en retard à l'école et ça va être encore ma faute.
Oui, Aurore.
Dis-moi, je pensais à un truc là concernant Yann Gilbert.
Attends. Je te coupe, on en parle dès que j'arrive. Parce que là, je suis sur la route de la Corniche, j'ai un taxi qui s'est fait buter qui va prendre pas mal de temps.
Ok, pas de soucis, on se retrouve au commissariat.
Ok.
Oui, Clara.
Non, c'est pas Clara, c'est Antoine. J'ai retrouvé son portable sous la banquette du taxi.
Ah, oh, putain.
Il y a eu une fusillade. On a retrouvé pas mal de douilles, des traces de sang, je suis désolé.
Tu as appelé le central de taxi?
Ouais, j'attends leurs infos.
Allez, on va parler d'Une vie après, un téléfilm pour Arte qui débarque cette semaine avec un très beau casting, hein. Émilie Decken, Frédéric Pierrot, Marilyn Canto et Laurent Bateau qui nous rejoint pour nous parler justement de ce téléfilm. Bonjour Laurent.
Bonjour.
Merci d'être avec nous. Alors, Une vie après, c'est un téléfilm, on disait, pour Arte. Est-ce qu'on peut dire qu'on est dans une comédie dramatique et on est dans une histoire d'amour croisé en quelque sorte?
D'amour croisé, oui, de comédie dramatique, je sais pas.
Qu'est-ce qu'on peut dire sur l'histoire de base, en quelques mots?
En quelques mots, c'est l'histoire d'une femme, jouée par Émilie Decken, qui est avec un mari depuis pas mal de temps, qui a été important à tout un moment de sa vie, et elle rencontre quelqu'un d'autre. Elle a une nouvelle rencontre, et elle quitte cette première personne. Donc ça commence comme ça.
Et votre rôle en quelques mots alors, Laurent?
Moi, je joue donc le mari d'Émilie Decken, qui est quitté.
Le bafoué
qui prend les choses difficilement, puisqu'il avait tout misé sur cette femme, sur ce couple, avec leur enfant. Tout, il pensait que tout allait bien et il n'était pas inquiet. Et pour lui, cette séparation est surprenante, arrive un moment où il ne s'y attend absolument pas, donc il n'est pas prêt. Et en réalité, elle s'y préparait. Et elle l'annonce d'ailleurs dans une première scène, dans une boîte de nuit, et elle l'annonce en regardant son mari à quelqu'un qu'elle ne connaît pas. Et elle dit « Je vais le quitter cet homme, c'est mon anniversaire ce soir, tout le monde est là, et pourtant je vais partir. » Moi j'entends pas cette discussion, mais je la prends quelques temps après. C'est à mon avis un film assez élégant, Jean-Marc Brandolo est quelqu'un d'assez discret, élégant, et on n'appuie pas sur les scènes, on n'exagère pas les choses, donc c'est comme si c'était vu d'un peu plus loin. Et je pense que c'est les spectateurs qui se font leur image plus que nous qui appuyons sur des choses un petit peu conventionnelles.
Oui, on avait eu l'occasion de le recevoir pour le choix de Cheyenne d'ailleurs, et c'est vrai qu'il a une réalisation assez tout en finesse. Hein.
Ouais, oui, c'est sa marque de fabrique et moi j'aime beaucoup jouer avec lui parce que j'ai l'impression d'être au bon endroit en termes de jeu. C'est précis, c'est fin, c'est tout le contraire. Parfois on nous demande d'exagérer un petit peu les choses, moi j'aime pas ça. Et du coup, je me sens très bien avec des gens comme Jean-Marc, j'aime beaucoup. J'avais déjà vu au moment du Village Français, on s'était très bien entendu. Et le retrouver quelques années après, avec un petit peu de vécu différent, chacun de notre côté. Cette fois-ci, le rôle était peut-être un peu moins long. J'étais content de cette retrouvaille quelques années après. On a bien mûri chacun et c'était très, très chouette.
Quand on a, quitte un mari, quitté comme ça, il y a des scènes de souffrance qui peuvent être difficiles à jouer ou comment on s'y prépare?
Je pense que le plus important, c'est une sorte d'abandon, de vraiment lâcher, pour pas montrer justement un désarroi qui serait artificiel, pour pas montrer une tristesse. Dans les situations difficiles, les gens ne pleurent pas tout le temps. Quand on apprend un décès, parfois on ne dit rien, on ne sait pas encore quoi faire. Avec l'aide de Jean-Marc, moi je me suis vraiment abandonné. Je me suis abandonné moi-même alors qu'on m'abandonnait dans l'histoire. C'est plus un laisser-faire, hein. Laisser-faire sur à la fois mon visage et sur intérieurement, sur une déroute sidérante plutôt que... Et en plus, parallèlement, il y a l'accident de notre fils en début de film qui bouleverse un peu les choses.
On va découvrir en tout cas ce téléfilm. Ça s'appelle Une vie après, cette semaine sur Arte. Merci beaucoup.
Merci à vous.
Et à bientôt.
À bientôt.
Et on va se quitter tout de suite avec la bande-annonce Une vie après.
Dès qu'elle a poussé la porte du restaurant, j'ai su que j'avais besoin d'elle. Besoin d'avoir son courage à côté de moi. De cette énergie qu'elle dégageait. C'est elle qui m'a donné la force de partir.
Quitter quelqu'un pour quelqu'un d'autre. Une histoire banale. Sauf quand c'est à vous que ça arrive. Une vie après, vendredi à 20h55.
Et on va parler des mystères de l'amour. La série qui fait les beaux jours de TMC le week-end à 19h45 les samedis et dimanches. Et alors que la série vient de fêter son 500e épisode, eh bien on va fêter ça avec deux de ses comédiens. Et on va commencer tout de suite par Patrick Puydebas. Bonjour Patrick.
Salut Alain.
Et on a Laure Guibert qui va nous rejoindre évidemment, Bénédicte dans quelques instants également. Patrick, 500 épisodes, le record est battu là. Je crois que là, même Hélène et les garçons, le miracle de l'amour, les vacances de l'amour, là, c'est, ils sont tous à août. Vous avez tout pulvérisé sur cette quatrième mouture.
Bah oui, mais en fait, Hélène et les garçons, bah, ça a été le cataclysme, on va dire, l'épicentre du truc. Mais c'est là où finalement il y a le moins d'épisodes. Sauf si on cumule avec après la suite qui a été le miracle de l'amour, mais c'est les vacances de l'amour qui pour l'instant avait le record d'épisodes dans son format, dans son titre tout du moins, et donc tout ça a été pulvérisé. Donc ça en fait ce sont les 500 premiers, il nous en reste encore 500 autres à faire, puisqu'on veut battre tous les records du monde, et surtout celui des Américains. Voilà, donc on a préparé la gériatrie, les fauteuils roulants, voilà. Les...
Ça va être à la maison de retraite dans 20 ans, hein. Vous avez encore le temps, vous avez le temps encore.
Pas, on est vraiment, c'est carpe diem, on est au jour le jour, on prend toujours autant de plaisir à être réunis, c'est travailler avec des amis de plus de 25 ans, je crois que c'est quand même un phénomène assez rare pour en profiter pleinement, le temps passe si vite, on profite, chaque jour qui passe, vraiment, c'est...
C'est ça, c'est un luxe, mine de rien, de pouvoir travailler entre amis comme ça, de pouvoir en plus faire plaisir au public, parce que les fans étaient demandeurs. Et on le voit, en 8 ans, vous mettez 500 épisodes en boîte, le public est toujours là. Au bout de ces 8 années des mystères, avec 800 000 téléspectateurs, le samedi et le dimanche, c'est de la folie.
On fait partie du patrimoine, j'ai l'impression, on fait partie.
Mais oui, c'est ça.
On fait partie des murs, hein. Bah, les gens grandissent, vieillissent avec nous, et puis bah, voilà, on fait partie un peu de la famille de tous ces gens qui nous suivent très gentiment depuis des années. Et puis il faut dire qu'on a totalement dépassé le concept du produit audiovisuel. Nous on est dans l'aventure humaine, c'est-à-dire que tout ça on travaille plus, on est plus dans le métier, enfin on fait toujours le métier de comédien aussi bien que possible, mais nous c'est l'aventure humaine et c'est cette réunion de tous ces gens depuis aussi longtemps et cette communion qu'on a entre nous, c'est exceptionnel, oui, nous c'est ça qui nous rend le plus heureux au-delà du succès de la série, c'est ce qu'on vit nous, voilà, et grâce à vous, cher public, parce que sans vous, il y aurait rien du tout.
Et un public, voilà, on le disait, très fidèle. Qui a eu cette idée folle au départ? C'est toi et Jean-Luc, hein, je crois, et Jean-Luc Azoulay. Hein.
Alors, oui, moi j'étais parti longtemps d'Indonésie. Puis, à mon retour, j'ai réalisé qu'en fait, quand les vacances de l'amour avaient quitté l'antenne, c'était pas un problème d'audimat, ce qui est rare. Voilà, on va pas rentrer dans les dossiers. Enfin, c'est une petite guéguerre interne non, à l'époque avec AB et TF1. Donc, les programmes ont été victimes de cette confrontation. Et à partir de ce moment-là, je me suis dit, bien, peut-être que nous, on a été comme ça sortis de l'antenne sans crier gare. Et je pense qu'il y a beaucoup de gens qui ont été comme nous assez surpris. Et puis, ça vaut le coup peut-être de revenir. Et peut-être que les gens seront là au rendez-vous. Alors, ça a été le cas. Il y a eu pour les premiers épisodes un phénomène de curiosité, forcément, parce que il n'y avait pas d'équivalent. C'était jamais fait un comeback comme ça d'une série qui avait marché. Donc,
il y en a d'autres qui ont essayé, qui n'ont pas réussi.
Non, mais ça s'explique. Et non, mais sans cynisme. Après, l'audimat n'a pas tenu parce qu'on s'est aperçu que le succès d'antan ne suffisait pas et qu'il fallait tout reconstruire, temps des personnages, une nouvelle Bible avec des personnages qui avaient évolué, qui avaient grandi, vieilli, et puis tout un contexte, un univers, il fallait absolument tout recréer, donc c'était beaucoup de travail, surtout pour Jean-Luc, évidemment, qui écrit la totalité des textes, et puis nous, il a fallu qu'on fasse aussi beaucoup d'efforts. Enfin, tout le monde s'y est mis, enfin voilà, ça a été un beau travail d'équipe, mais il a fallu tout refaire, et c'était un sacré boulot. Alors si d'autres nous ont emboîté le pas, parce qu'on a fini par retrouver le succès, et si ça n'a pas marché, c'est parce que, pour prendre Sous le soleil, par exemple, qui a été le... tous les protagonistes ne sont pas revenus, et c'est peut-être certainement pour ça que ça n'a pas la mayonnaise n'a pas pris, alors que nous on était tous au rendez-vous. Voilà.
Alors, il y a même des primes. Alors, il y a eu un prime autour de ton mariage, hein, évidemment aussi, dans ce beau château.
Ah non, mon mariage, c'était aux
Antilles. C'était Hélène et Peter.
Bah alors, c'est pas moi.
Non, c'est pas toi. Toi, c'est aux Antilles, c'est vrai. Parce que Saint-Martin, quand même. Vous êtes retourné d'ailleurs là-bas?
Depuis le cyclone, je ne suis pas retourné. Moi, je suis allé en vacances l'été 2017. J'ai passé 15 jours de vacances géniales là-bas. Et c'était un mois et demi avant Irma. Donc, j'y suis pas retourné depuis. Voilà. Non, moi, mon mariage avec Hélène, c'était aux Antilles. Tu confonds tout, Alain.
Force, et vous êtes marié, vous avez eu je ne sais combien d'enfants, vous êtes remarié, enfin moi je m'en sors plus.
Trois femmes, trois enfants, comme tout le monde.
Et on a Laure Guibert qui nous rejoint, bonjour Laure.
Bonjour, ravi.
Ben nous aussi, ravi de te retrouver dans Chut, on écoute la télé aussi. Alors c'est ce qu'on disait avec Patrick, une longévité incroyable. Comment tu vis ça toi, Laure, puisque là maintenant vous avez dépassé en tournage, pas encore en diffusion, mais en tournage les 500 épisodes.
Bah oui, 500 épisodes cette fois-ci, je pense qu'on en a fait... la même chose avant. Donc comment j'ai vu ça? Bah très bien, ça va. Hein.
Alain, je dois t'interrompre. J'ai une question pour toi, Alain, toi qui est au courant de tout. Depuis Hélène et les garçons, on en a combien finalement?
Moi, je sais. Épisode. Alors écoute, il y en a eu presque 300 pour Hélène et les garçons. Il y en a eu 156, je crois, ou 159 sur le miracle de l'amour et 160 sur les vacances de l'amour. Alors vous faites l'addition, hein, et vous ajoutez 500 sur les mystères.
Alors, moi je sais exactement où on en est. C'est-à-dire qu'au 500e épisode, on était à 1099. Épisode.
Là, ça claque.
Là, ça claque.
Et combien de fois tu as plaqué José, du coup? Est-ce que tu as compté le nombre de fois tu l'as plaqué, José?
Ah non, quand on aime, on ne compte pas. Non, j'ai pas compté. Non, mais c'est pas très grave. Enfin, voilà. La boucle n'est pas bouclée, hein.
En plus. Non, j'ai bien compris. On a bien compris. On est rendu à la 20e saison, quasiment, et c'est loin d'être terminé. Quel est ton plus beau souvenir de tournage à toi, alors? Parce que je suppose qu'il y en a plein, mais.
Oui, il y en a plein, ouais. Il y en a plein, mais les Antilles, ça reste vraiment la bulle, la parenthèse enchantée. Où on s'est marré, où on a fait de belles images, où on s'est éclaté, quoi. On a vécu un moment magique. Vraiment.
C'est vrai. Laure a raison, c'était une période inoubliable.
Et aux Antilles, vous étiez vraiment en vase clos, quoi. Vous étiez tout ensemble, même hors tournage. Vous aviez vos habitudes, etc. Donc là, c'était vraiment au-delà du tournage de la série. C'était vraiment une troupe de copains, quoi. Presque en vacances de l'amour, quoi.
Vie communautaire, quoi.
On bosse à Saint-Martin, on prend ses week-ends à Puerto Rico. Alors, quand on bosse à Paris, on prend ses week-ends dans l'Oise. Bon, ça pas le même charme.
Ça claque pas pareil. Non, c'est vrai que, en plus, on pouvait rayonner très facilement. On avait, on a eu de la chance, quoi.
De la chance, je crois qu'aujourd'hui, les fans vous le rendent bien. Qu'est-ce qu'ils te disent le plus souvent à toi?
Alors, moi, que j'ai bercé leur enfance, donc je suis une grand-mère. Parce que parfois. Parfois, il y a des gens qui viennent me voir qui me disent que j'ai bercé leur enfance. J'ai l'impression qu'on a le même âge. Et puis, ils me disent que j'ai bercé leur enfance. Alors, je me dis, bon, d'accord.
En tout cas, je vous souhaite tout le meilleur. Évidemment, 500 épisodes, ça se fête. Donc, je suis sûr que vous avez fait une belle fête pour le tournage, non?
Oui, on en a fait une et on va faire une deuxième fête.
Pour la saison 20, parce que c'est aussi un chiffre rond, saison 20.
Et oui, non, mais on fête en général.
Un petit scoop, est-ce qu'il y a un nouveau prime en préparation? Est-ce que vous en discutez? Est-ce que vous avez envie de refaire peut-être un prime événement, soit pour l'année 2019? Est-ce qu'il y a des choses qui se discutent?
Eh ben, j'en ai pas entendu parler jusqu'à présent, c'est pas impossible, mais pour l'instant, c'est pas l'ordre du jour que je sache.
Non, on n'est pas au courant.
Bon, on suivra ça évidemment, puis on en reparlera très vite. Les mystères, ben j'espère bien, hein, tu m'appelleras. Les mystères de l'amour, en tout cas, le rendez-vous, il est pris, c'est le samedi et c'est le dimanche. C'est à 19h45, c'est sur TMC, c'est le rendez-vous à ne pas rater. Ouais. Voilà, merci à tous les deux.
Merci Alain.
Les mystères de l'amour, ça paraît simple. Prenons Hélène. Oui. Elle est enfin mariée à Nicolas, son amour de jeunesse. Avant, elle avait épousé un milliardaire, Peter. Peter qui venait lui-même de divorcer d'Audrey.
Tu sors !
Audrey qui n'est autre que la mère de Nicky. Lucky, l'un des enfants cachés de Nicolas.
Bah si, je suis ravi.
Nicolas est aussi le père caché de Zoé.
Ouais, j'ai entendu, oui.
Zoé qui est la fille d'Ingrid. Ingrid qui a tenté de tuer sa rivale, Hélène.
Oh oui, c'était terrible.
Vous suivez? Passons à Bénédicte. Quand José a disparu...
Quoi, José, j'ai rien fait, là?
Elle est tombée dans les bras de Jimmy. Ensemble, ils ont eu Léa. Puis, Jimmy l'a quittée pour Sophie. Sophie, qui est la grande amie de Christian.
T'es en train de tomber amoureuse de toi.
Hey. Christian, qui après Johanna, s'est marié avec Chloé, la sœur d'Hélène. Même si actuellement, il vit avec Fanny.
Je cherche une princesse. Appelez Fanny.
Jusqu'ici, c'est facile.
Quoi?
Si, c'est facile. Avec 264 épisodes de plus que Friends et 431 épisodes de plus que Columbo, l'amour est vraiment une grande aventure. Et ça valait bien une fête.
Allez, dans un instant, on se retrouve pour une spéciale Les Mystères du Bois Galant. Ça sera diffusé samedi sur France 3. On recevra Sarah Mortensen, David Van Severen. C'est une spéciale dans un instant. Alors ne bougez pas, on revient dans 3 minutes.
Bouge pas. Chut, on écoute la télé, reviens dans un instant. A tout de suite. Chut, on écoute la télé.
Le talk show radio.
Nos coups de cœur télé cette semaine.
Allez, on va parler du téléfilm Les Mystères du Bois Galant qui débarque sur France 3 cette semaine avec Sarah Mortensen, l'héroïne de ce téléfilm qui joue Emma. Bonjour.
Bonjour.
Merci d'être avec nous. Sarah, je suis très heureux de t'accueillir une nouvelle fois. Un nouveau téléfilm, un tournage soutenu, c'était en septembre dernier, en Charente-Maritime, dans notre belle région de la Nouvelle-Aquitaine. Déjà, première question que j'ai envie de te poser, est-ce que c'était ton premier tournage en Charente-Maritime? Qu'est-ce que t'en garderas comme souvenir?
Alors, c'était mon premier tournage en Charente-Maritime. J'en garde qu'il a fait un temps de dingue tous les jours, qu'on a tourné beaucoup dans la campagne, dans la forêt, et que je dois dire que vous avez une très très belle région, et que le principal du tournage, donc la gendarmerie, s'est passé à Rochefort, qui, je dois dire, est une ville très 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 calme, mais très 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 jolie, et les gens sont vraiment adorables.
Eh bien voilà, tu vois, déjà bon souvenir, on a fait bonne impression, j'en suis déjà très heureux. Alors ce téléfilm, en quelques mots, qu'est-ce que tu peux nous dire sur l'histoire? Comment ça commence?
Alors ça commence par le capitaine Emma Tellier, qui est donc mon personnage, qui est en vacances chez sa maman, très tranquille, qui est là en congé, qui travaille à la PJ à Paris et qui pour une fois prend un peu de vacances. Et en faisant son jogging un matin, elle tombe sur un monsieur donc décédé par deux balles et elle appelle la gendarmerie. Et le gendarme qui arrive, il se trouve qu'elle a passé la nuit avec la veille et que en plus on va la mettre sur l'enquête en binôme avec ce gendarme interprété par Olivier Sitruc. Et donc ça va dénoter entre ces deux personnages. Emma Tellier, elle est plutôt hyperactive, punchy, elle fait de la moto et elle vole un peu dans tous les sens, alors que notre capitaine Clévec est un tout petit peu coincé, très très organisé avec son petit carnet, il prend beaucoup de notes. Il aime bien travailler avec des petits post-it, à faire des belles fifiches. Voilà, et du coup, c'est la rencontre un peu clash entre ces deux personnages.
Un peu garçon manqué? On pourrait la taxer un peu de garçon manqué, Emma?
Elle est quand même féminine, elle sait quand même où elle va. Mais c'est vrai que elle est plus moto, jogging, tout ça, que jupe et talons aiguilles. Mais, quand même, à un moment donné, sa féminité va arriver.
Les Mystères du Bois Galant. Alors évidemment, c'est, comme le nom l'indique, il y a eu pas mal de tournages dans les bois avec le temps qu'il y a eu. Voilà, c'est sûr que à mon avis, les images vont être magnifiques dans ce téléfilm que vous verrez sur France 3. Quelle a été pour toi la scène peut-être la plus difficile ou qui va rester de ce film? Est-ce qu'il y en a une qui ressort? Alors nous, on a eu l'occasion d'aller sur le tournage, hein, sur une scène de prise d'otage. Mais est-ce qu'il y a eu des scènes plus musclées
Il y a eu une scène de cascade avec une moto où évidemment j'ai été doublée pour la cascade, que vous la verrez, elle est quand même assez funky la cascade, mais où j'ai dû prendre le raccord de cette cascade et du coup c'était évidemment une grande organisation de tournage parce que il faut prévoir des doublures, des cascadeurs, c'est une cascade avec voiture et moto en même temps. Donc tout ça s'organise, donc c'était une très très longue journée qui était juste démente parce que moi on me demande de faire ce genre de choses, je suis comme une gamine, je suis ravie.
Les assureurs moins.
Oh, les assureurs sont très très détendus parce que les cascadeurs font ça très bien, mais du coup après ça a donné lieu à une course-poursuite dans la forêt qui est juste super avec évidemment il y a des armes, donc on tire avec des balles à blanc, enfin voilà, moi tout ça j'adore. Donc ça, moi j'adore tout ce qui est un peu scène d'action.
Jouer aux gendarmes et aux voleurs un peu.
C'est ça, ça tombe bien.
Exactement. Bon là en fait, tu es à la tête du téléfilm avec donc Olivier. tu es l'exemple type, que tu vois, Plus belle la vie ferme pas de porte, au contraire, ça en ouvre, on te voit dans plein de choses à côté. Ça permet aussi un petit peu voilà, de prendre l'air et puis d'explorer d'autres personnages et puis d'autres scènes.
Hein. Bah, j'ai énormément de chance. Déjà, je suis... Je remercie évidemment parce qu'il faut le dire, hein, de temps en temps, faut remercier les gens. Je remercie Flash Film et Sylvette Friedman et Jean-François Petit de m'avoir fait de m'avoir fait confiance pour ce rôle, et évidemment Anne Holmes qui est à la tête de la fiction de France Télévisions. J'ai beaucoup de chance, effectivement, je joue plein de rôles différents, j'ai toujours des rôles assez forts, vraiment beaucoup de choses à défendre. Voilà, que ça continue, que ça vive, et Plus belle évidemment, moi je continue Plus belle avec bonheur. Alors, ils ont la gentillesse de me laisser m'échapper, et heureusement, parce que moi, je suis avant tout actrice, donc j'ai envie d'explorer différents personnages, différentes histoires, rencontrer des réalisateurs, travailler avec plein de gens le plus différents possible. Donc, c'est une grande chance, j'espère que ça va durer. Voilà, je touche du bois que je n'ai pas, je touche ma peau de singe que j'ai, voilà, et que ça continue longtemps.
En tout cas, c'est tout ce qu'on espère, parce qu'évidemment, le public est bien très heureux de te retrouver et même de te voir aussi dans d'autres choses.
Mais j'espère que vous serez tous au rendez-vous.
En tout cas, on ne le rate pas, Les Mystères du Bois Galant, donc ça arrive cette semaine sur France 3. On a évoqué voilà, le souvenir du tournage, on a évoqué un petit peu ton rôle. Comment s'est passée aussi ta rencontre avec Olivier? Vous avez déjà tourné ensemble?
Alors, on n'avait jamais tourné ensemble, on ne s'était jamais rencontrés, on s'est... voilà, c'est un couple qui a été mis en place, un duo d'acteurs qui a été mis en place. C'est des choix de producteurs, de chaînes et tout ça. Et je dois dire que c'est un bon choix. C'est un bon partenaire de jeu. On s'est entendu bien assez vite. Et en plus, on est très différents. Donc du coup, ça marche bien. Lui, il est dans son rôle, moi dans le mien. Et du coup, je dois dire que l'interaction, elle est bien. Et puis, c'est un acteur qui a fait aussi, enfin, qui a beaucoup, beaucoup tourné, qui a fait beaucoup de théâtre. Donc voilà, il est plutôt précis et bosseur. Moi, j'aime bien bosser. Alors, c'est bien.
Eh bien, c'est cool. Vous êtes bien, en tout cas, trouvé sur ce tournage. Et Mystère du Bois Galant, c'est cette semaine sur France 3. Merci beaucoup, Sarah, d'être passée nous voir.
Ben, merci à vous. C'est toujours un plaisir. Je reviens quand vous voulez.
Allez, quand tu veux, tu sais, à portée ouverte. À très vite, Sarah. Merci beaucoup.
Bonne soirée. Au revoir.
Adjudant Le Pic, c'est vous qui avez appelé?
C'est moi, oui.
Bon, suivez-moi. Je vais vous présenter au chef. Mon capitaine, je vous présente...
Les Matelliers, officier de police, je travaillais là.
Crime, à Paris.
Capitaine Kavec.
C'est madame qui a découvert la victime. Vous connaissez?
Pas du tout.
Allez, on va continuer à parler des Mystères du Bois Galant juste après Sarah Mortensen. Eh bien, nous allons recevoir Sandy Lewis Godefroy qui est avec nous. Bonjour Sandy.
Bonjour.
Merci d'être avec nous. Et on va recevoir aussi David...
Van Severen,
voilà, qui joue aussi, eh bien, le rôle du youtubeur dans Plus belle la vie, Jimmy Moon.
Exactement.
Tu reviens épisodiquement de temps en temps, te vois dans Plus belle la vie, dans ce rôle de youtubeur un peu déjanté sur de lui.
Exactement, ouais, c'est ça, c'est ponctuel et c'est outrancier comme écriture, donc je m'amuse beaucoup, c'est vraiment génial. Et puis je suis très content de retrouver les copains et Léonore pour toutes ces séquences-là. Voilà, le meilleur reste à venir. Vous allez voir.
En tout cas, c'est Les Mystères du Bois Galant. Pour l'instant, en plus, un téléfilm tourné dans de belles régions de la Nouvelle-Aquitaine. Sandy, première question que j'ai envie de te poser. Alors, quel souvenir tu vas avoir gardé de ce tournage dans notre région?
Waouh. Le premier souvenir, ben, déjà, c'est notre hôtel. non, mais c'est surtout les paysages. Les paysages, puisque déjà, on a commencé à aller courir. En plus, le matin, des fois, quand on avait le temps. Donc, c'est super agréable. Mon premier plat d'huîtres dans la région.
T'as aimé ça ou pas, Sandy?
Ah non, mais c'est excellent. On voudrait rester juste pour ça, en fait. Et puis après, nos partenaires. Bah déjà parce que je revois David. On a tourné ensemble il y a très très longtemps. Et un jour, je lui avais dit, tu verras, si on continue ce métier, on se retrouvera. Et ben voilà.
Et là, on est partenaires.
Et là, en plus, on est partenaires. Quoi. Et
là, vous jouez le rôle de deux flics.
De deux flics, deux adjudants. Et on épaule Sarah Mortensen et Olivier Sitruc. Et puis c'est plutôt drôle, on a un couple, on n'est pas ensemble, mais on se cherche. Et
donc, dans son rôle de Marc, il aimerait être avec Émilie, que je joue. Voilà, et tout le long, il me propose des sorties, notamment une soirée, méjouie. Alors, est-ce qu'elle va accepter ou pas, ça, je vous laisserai découvrir.
On le verra, on va le découvrir effectivement dans le téléfilm. Donc, comment on définirait Émilie, tiens, pour commencer, Sandy?
Elle est hyper méticuleuse, elle adore son chef. Elle est à fond sur son chef, elle est impressionnée par son chef.
Jouée par Olivier?
Oui, exactement, jouée par Olivier Sitruc. Et l'arrivée d'Emma dans notre secteur, ça va pas lui plaire. Donc l'arrivée de Sarah Mortensen en plein milieu, qui va me voler finalement la vedette, hein, quelque part, parce que mon chef va être à fond derrière elle, et ça va me plaire. Ça va pas plaire du tout. Emily, elle va être concentrée limite plus sur ce qui se passe entre le couple que sur l'affaire. Voilà.
Et toi, David, comment on pourrait définir Marc?
Marc, c'est un mec qui est tête en l'air. C'est un gendarme, mais malgré tout, il est très tête en l'air. Il aime la nature. Enfin, ça, c'est les choses que je me suis racontées. Hein. Mais en vrai, il est...
Il vient de se raconter des fois. Vas-y.
Ouais, exactement, il aime.
Le moment, c'est ta minute où tu te racontes. Vas-y.
Non, il aime la nature. Il aime se balader en forêt. Il aime les cailloux. Je fais la collection de pierres. Voilà. Ça, c'est ce que je me suis raconté. Et en vrai, sinon, il est... Dès le début, il aime bien Emily, quoi. Alors, il sort d'une histoire compliquée. Ça aussi, c'est ce que je me suis raconté. Et du coup, j'aime bien Emily. Et je vais essayer de lui proposer cette fameuse soirée, Méchoui. Et quand Sarah arrive, je suis quand même hyper impressionné par cette flic qui vient de Paris, de Paname, et qui en jette beaucoup, quoi. Qui a beaucoup d'énergie, qui a la poigne.
Merci en tout cas à tous les deux d'être passés nous voir, les Mystères du Bois Galant. Et bien écoutez, c'est justement cette semaine sur France 3. On va réécouter un petit extrait. Merci à tous les deux.
Merci à vous.
Merci.
Eric Zorki, la victime, a été tuée de 2 coups de fusil ce matin vers 7h15. Il a reçu une balle dans le plexus, une balle dans le dos. Calibre 8.57, généralement utilisé pour le gros gibier. Eric Zorki exerce la profession d'huissier, chasseur, célibataire, peu d'amis, peu de famille. Juste un frère, Bernard Zorki.
Aucun indice probant sur la scène de crime. Il n'y a pas de traces nettes. Pas de douille.
En résumé, pour l'instant, on n'a pas grand-chose.
Si, moi j'ai un truc. Eric Zorki partageait la propriété de ce lieu joliment nommé le Bois Galant avec son ami Jean Pradel. Ils y font leur bois de chauffage. Les deux sont chasseurs, donc les deux possèdent des armes.
Lundi prochain dans Chute, on écoute la télé.
Alors la semaine prochaine dans Chute, on écoute la télé, eh bien nous aurons le plaisir de vous offrir une émission quasiment 100% cinéma, puisque c'est pas un coup de cœur qu'on va vous proposer, mais 3 coups de cœur dans Chute, on écoute la télé. Le premier, eh bien ça sera Mon Inconnu, le film d'Hugo Gélin, qui sera donc notre invité, accompagné de Joséphine Japy et Benjamin Laverne, qui seront donc avec nous. Nous parlerons également de Chamboultou, puisque Éric Lavenne et Anne-Marie Vin seront nos invités également pour nous parler de ce très beau film, avec au casting également Alexandra Lamy et José Garcia. Nous aurons le plaisir également de consacrer un coup de cœur ciné au film Des gens bien, avec les deux réalisateurs Bruno Lopez et Manuel Vielli. Nous aurons également les deux héroïnes principales, Anne Lenen et Paloma Lopez. Des rendez-vous évidemment à ne pas manquer. Ça sera vraiment très très ciné lundi prochain dans Chute, on écoute la télé.
Chute, on écoute la télé, c'est aussi en live sur onécoutelatélé.com et sur la page Facebook Chute, on écoute la télé.
J'aurai donc le plaisir de vous retrouver tout au long de la semaine sur Radio Dune pour la quotidienne de Chute, on écoute la télé à 5h35, 10h30 et 12h20. Et puis bien sûr, rendez-vous à 16h dès lundi prochain pour la grande hebdo. Alors d'ici là, je vous souhaite une très très belle semaine à tous et une très belle fin d'après-midi. À demain les amis.
Chute, on écoute la télé avec DSM Fabricant, votre spécialiste du revêtement sol et mur sans raccord, sur diffusionsolmur.fr.
Chute, on écoute la télé avec les pâtes à tartiner fabriquées dans le sud-ouest par Lucien Georgelin. Vos points de vente en Gironde sur lucien-georgelin.com.